On va parler ce soir de comment Satan se sert de la parole de Dieu. Comment Satan se sert de la parole de Dieu. Alors c'est la troisième étude dans cette petite série. Dans la première étude, juste pour nous rappeler, nous avons vu les champs d'action dans lesquels Satan agit. Parce qu'on ne veut pas être ignorant hein, de ce qu'il fait. Et nous avons vu que ce n'est pas tellement dans le champ physique, comme un accident de voiture ou une maladie, où Satan agit vraiment, c'est dans les domaines spirituel. Et c'est comme même avec Job. Hein, son désir avec Job n'était pas simplement de le faire souffrir. Son désir en le faisant souffrir, c'est qu'il pèche contre Dieu. Donc c'est toujours ça. Et donc parfois, par la douleur, il peut nous amener à pécher contre Dieu, ou par le plaisir aussi. Il peut nous amener à pécher contre Dieu. Et donc Satan est content d'utiliser un outil comme l'autre. Mais son but, toujours, c'est de nous tenter à pécher afin de nous accuser devant Dieu. Il veut toujours, toujours, toujours nous pousser à pécher. C'est ça son désir. Et il ne peut pas lire nos pensées. Satan ne peut pas lire nos pensées comme Dieu le peut. Et donc, il peut se tromper. Hein, il s'est trompé par rapport à Job. Mais il peut nous observer. Et avec toute la connaissance qu'il a de l'être humain, en le voyant hein, siècle après siècle après siècle, il peut assez facilement connaître nos faiblesses. Nous, on arrive à connaître les faiblesses, même les uns des autres, parfois. Certainement, il peut. Et il va tout faire pour les exploiter. Et donc, on peut avoir deux jumeaux, par exemple. Et un va se donner au plaisir, va refuser de travailler, de faire ses devoirs. Après, il va se donner à la drogue, etc. Et Satan le pousse. Et l'autre, il va réagir à cela. Il va dire, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de bien. Et lui, il va étudier encore plus. Et il va faire... il va avoir de bonnes notes. Il va réussir. Il va aller loin. Toujours poussé par cet orgueil. Vous voyez, dans les deux, Satan a réussi. Même s'ils réagissent l'un contre l'autre. Donc, ça, c'est ses champs d'action. Toujours les domaines spirituels. Donc, il se sert des difficultés relationnelles. Il se sert de nos faiblesses. Il se sert de la douleur. Nous avons vu quelques exemples dans la Bible. Et puis, nous avons vu la dernière fois son outil de prédilection. C'est-à-dire l'outil vraiment qu'il aime. Il trouve un certain plaisir maléfique dans tout cela à utiliser un certain outil. Et c'est quel outil? On a dit quoi? Voilà, on a dit que c'est la parole de Dieu. Il veut, il aime utiliser la Bible. Peut-être parce qu'il a un certain désir, mais aussi parce que c'est efficace de se servir de la vérité et la tordre pour créer une plus grande erreur. Et toute erreur marche parce qu'elle a une part de vérité, n'est-ce pas? Et donc, il se sert même d'une part de vérité pour tenter, pour exploiter ses fins. Alors, donc on a parlé un peu de ça la dernière fois. Et ce soir, donc, maintenant, comment Satan se sert de la parole de Dieu? Je commençais à réfléchir à cela cette semaine et j'ai dit, waouh, c'est en fait plus vaste que je ne pensais. Donc, on va se limiter à la première fois, Satan utilise la parole de Dieu. Et c'est où? Voilà. Tout au début. Genèse, chapitre 3. Ok, donc si vous avez vos Bibles, on va voir Satan avec Ève. Et comment donc Satan se sert de la parole de Dieu dans la vie d'Ève. Cette histoire est tellement, tellement importante, hein, parce que tout ce qui suit, pour comprendre tout, hein, vos douleurs, tout, il faut revenir à la chute, la création puis la chute. Donc on ne va pas pouvoir tout dire, donc on va essayer de se limiter vraiment à Satan, ce qu'il fait avec la parole de Dieu. Quelqu'un peut nous lire le premier verset, Genèse 3, 1. Verset 1. Un volontaire. Yvonne, merci.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?»
Voilà, donc, j'allais vous poser la question avant de lire et j'ai raté donc. Mais dans cette conversation, c'est qui parle en premier ? Entre Ève et le serpent. On vient de lire, c'est le serpent. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ici ? D'abord, juste pour l'analyser, hein, comme on pourrait analyser un texte littéraire, on voit que la forme de sa phrase, c'est quoi ? C'est une question, n'est-ce pas ? C'est une phrase interrogative. Ouais, c'est une question qu'il lui pose. Ça, en fait, c'est la première question de la Bible. Et ça vient de Satan. Alors, qu'est-ce qu'il suggère par cette question ? Est-ce que vous avez des idées ? Dieu vous a vraiment dit ne manger aucun fruit du jardin. La forme ici, même dans cette question négative, et qui englobe toute l'exagération de tous les arbres. Et Dieu dit, voici, je vous donne, notez ce verbe, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Vous voyez que Dieu leur donne tout, toutes ces choses. Alors, regardez chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, un jardin de plaisir, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Encore, vous voyez l'accent sur les arbres. Il y a des arbres de toute espèce dans ce jardin. Et qu'est-ce qui est dit par rapport à ces arbres ? Regardez-le ! Qu'est-ce qu'il dit au verset 9 ? Chapitre 2, verset 9. Ils sont quoi ? Agréable à voir et bon à manger. Alors, gardez cette phrase dans votre tête et on va revenir. Mais regardez chapitre 3, verset 6. La femme voit l'arbre au milieu du jardin. Et elle a vu que l'arbre était quoi ? Exactement les mêmes mots, hein ? Bon à manger. Et, ça c'est pas le même mot, mais c'est un synonyme, et agréable à la vue. Okay ? Donc il y a ce jardin, il y a cet arbre au milieu du jardin, et lui aussi, parce que tout ce que Dieu a fait est bon, hein ? Donc même le jardin au milieu, il est bon à manger et agréable à la vue. Ok. Revenons maintenant au chapitre 2, verset 9. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, et tous ces arbres sont quoi ? Agréables à voir et bons à manger. Donc, ce verset nous dit que, bon, c'était vrai que l'arbre au milieu du jardin était bon à manger et agréable à la vue. Mais nous savons, avec ce verset que nous venons de lire au chapitre 2, que tous les arbres du jardin étaient bons à manger et agréables à la vue. Et de plus, ils avaient libre accès. Hein? Donc il leur dit, hein, vous avez, Dieu fit pousser pour eux ces choses. Et ils avaient aussi accès à quoi au verset 9 ? L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre, il y a aussi de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient accès à ça. Il y avait aussi un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Regardez verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de quoi ? De tous les arbres du jardin. Nous savons tous ces arbres qui sont bons à manger et agréables à la vue. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, revenons à ce que Satan va faire avec la parole de Dieu. Est-ce que Satan mentionne les autres arbres du jardin ? Bon, on va dire dans un sens, oui. Mais d'une façon tordue. Il ne mentionne pas le fait qu'ils peuvent manger de tous les arbres. Est-ce qu'il parle du fleuve qui arrosait le jardin ? De l'or, on ne l'a pas vu, mais c'était avant, l'or qui était si bon. De l'arbre de vie, de cette provision surabondante qui procurait de tous les arbres du jardin, excepté un. C'est-à-dire, est-ce qu'il présente la chose correctement ? Bien sûr que non. Il va prendre la parole de Dieu et il va faire tout pour nous faire oublier toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Et puis, comme Jeanne a dit, quant aux interdictions, qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Il va l'exagérer. D'accord ? Donc, on a dit que Satan essaie de tronquer une partie de la parole de Dieu, hein, les bénédictions, et d'exagérer l'autre partie. Et c'est ce qu'il va faire ici. Regardez encore 3.1, Genèse 3.1. Il va poser cette question. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne manger d'aucun fruit du jardin ? Mais c'est quand même pas vrai. Hein, hein, c'est comme ils disent, mais tu peux même pas vivre. Tu peux rien faire. Vous savez, il est possible de ne pas voir la Bible comme un livre de bénédiction et de grâce. C'est triste, mais c'est assez commun. Les gens vont prendre la Bible, ils vont l'ouvrir, ils ne vont pas voir la Bible comme une source de bénédiction, de grâce et de joie. Ils vont la voir comme des interdictions qui gâchent ma vie, qui m'empêchent de m'épanouir. Ils vont pouvoir lire même et ne jamais voir de leurs yeux spirituels toutes les bénédictions et toutes les promesses et toute la vie, comme Jésus a dit, l'homme vit de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'homme, il peut arriver au point où il dit, non, l'homme meurt de ça. Ça devient trop lourd. 1 Jean 5, 2 dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à pratiquer ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pour ceux qui aiment Dieu, ses commandements ne sont pas pénibles. Mais pour ceux, Dieu, Satan, il est là pour tordre cela, pour que, en fait, les commandements de Dieu deviennent pénibles. Et Satan va tout faire, je vous promets, pour vous cacher tout ce qui est bien, tout le bien qui est dans votre Bible. Et exagérez aussi tous les commandements. C'est toujours comme ça qu'il fait avec la parole de Dieu. Et en fait, il le fait avec tous les dons de Dieu. Prenons par exemple la famille. Si vous vivez dans une famille, que vous soyez enfant, parent, etc., Satan va chercher à maintenir au premier plan, dans votre tête, dans votre esprit, toutes les difficultés de la vie familiale. Oh, que c'est dur d'avoir des frères et sœurs comme ça. Oh, que c'est dur d'avoir des enfants comme ça. Oh, que c'est dur d'avoir un mari ou une femme comme ça. Il va essayer de garder ça au premier plan et vous faire ignorer toutes les bénédictions que c'est de vivre en famille. Même une famille imparfaite, c'est une immense bénédiction. Et si vous vivez seul, je crois que c'est la même chose, un sens inverse. Hein. Satan vous poussera à vous attarder sur les difficultés de la vie célibataire. Et donc, prenons un homme qui est marié, un homme qui est célibataire. Ils commencent à parler de leur situation. Que pensez-vous est plus probable? Qu'ils parlent tous les deux de toutes les bénédictions de leur situation propre ou de toutes les difficultés de leur situation propre? Ou deux femmes dans les mêmes situations? Ouais, mais toi, tu sais pas ce que c'est d'être... Ouais, et ça, c'est satanique. C'est une tentation de Satan de nous faire carrément juste oublier ces choses. Et on peut vivre des années dans une famille, par exemple, sans penser quelle bénédiction c'est. Jusqu'à, parfois, ça arrive qu'une personne meurt. Quelque chose arrive et puis on dit, ah, quelle folie, c'est trop tard. Et Satan fera la même chose avec l'Église. Quelle bénédiction imméritée de faire partie du corps de Christ. Quelle de faire partie du corps de Christ, même si les autres membres sont très imparfaits. Mais pourtant, Satan veut que cela devienne fastidieux, pesant, difficile, désagréable. C'est sa façon d'agir. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël hein, dans le désert après leur grande délivrance d'Égypte. Tout ce que Dieu a fait pour eux, ils se mettent tout de suite à faire quoi? À se plaindre. Et ça peut arriver, mes amis chrétiens, ça peut nous arriver que même la lecture de la Bible peut devenir pénible. Et puis on se dit, bon, je ne veux pas lire par obligation. Hein, j'ai des chrétiens qui m'ont dit ça. Je ne veux pas lire par obligation. Donc, je ne vais pas lire aujourd'hui. Et Satan, c'est exactement ce qu'il veut. Et ce n'est pas facile de manger quand on n'a pas le goût et l'odorat. Hein. Mais la réponse, c'est qu'il faut quand même manger. En priant que le goût et l'odorat reviennent. Donc Satan essaye de tronquer une partie de la parole de Dieu, d'en exagérer une autre. Et prenez des choses que vous lisez dans la Bible. Certainement, vous lisez, est-ce que vous prenez ça comme une bénédiction? Et puis, vous voyez des choses, vous dites, non, ça, c'est pas possible. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vraiment? Et sa justice, pardon, j'ai oublié une phrase. Il y a plein d'exemples qu'on a tendance, sans le réaliser, de simplement écarter, parce qu'on se dit, bon, c'est pas pour nous. Mais où est-ce qu'il va dans tout cela? Il va tronquer une partie de la parole de Dieu, il va exagérer une autre, parce qu'il veut, en fin de compte, déformer notre image de Dieu. Et quelle tristesse qu'il va se servir de la parole de Dieu pour déformer notre image de Dieu. Alors, il faut savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et une des choses que Satan veut déformer, c'est l'image de Dieu dans l'homme, mais aussi c'est l'idée qu'a l'homme de Dieu lui-même. C'est-à-dire il veut déformer l'image qu'a l'homme de Dieu. Parce qu'après, on va devenir comme nos dieux, comme il est dit en Ésaïe. Ils deviennent comme leurs idoles. Et c'est au verset 4 et 5 que nous voyons ça. Le serpent dit à la femme... Elle corrige, verset 2, 3, elle corrige le serpent. Elle dit non, nous pouvons manger de tous les arbres. mais déjà, on sent qu'elle commence à glisser. Parce que dans sa réponse, elle-même exagère l'interdiction. Elle dit qu'on ne peut pas manger, on ne peut même pas toucher. Alors on ne sait pas, j'imagine ici. Peut-être Adam et Ève, en se parlant entre eux, se sont dit, écoute, Dieu ne veut pas qu'on mange. Donc, on ne va même pas toucher cet arbre. Et ça serait par amour pour Dieu. Quand on veut obéir à Dieu, on est prêt à aller le pas de plus. Mais après, quand on commence à douter de la bonté de Dieu, etc., c'est pas de plus qu'on faisait par amour et avec facilité. Tout d'un coup, tout cela devient pénible. Et on retourne contre Dieu. Pourquoi je dois faire ça? Et parfois, ce n'était même pas quelque chose qu'il avait demandé au début. Et donc, elle dit, écoute, on ne peut pas manger parce que si on mange, on va mourir. Et le serpent dit à la femme, quoi, verset 4? Vous, c'est au pluriel. Donc, il parle pour elle et pour son mari. T'inquiète, pour toi ni pour ton mari, vous ne mourrez pas. Point. Exact le contraire. Une contradiction exacte de ce que Dieu a dit. Mais il ne s'arrête pas là. Parce qu'il ne veut pas simplement qu'elle croie que Dieu s'est trompé. On peut parfois aimer quelqu'un. Donc, Siméon, il dit des choses, et parfois, bon, je sais qu'il s'est trompé, mais ce n'est pas grave. Un Dieu qui se trompe parfois, bon, ça arrive. Mais lui va aller encore plus loin. Il va maintenant donner la motivation derrière ce que Dieu a dit. Et il va dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, il y a donc cette négation d'abord. Et quelqu'un, Kitner, a dit dans son commentaire, il dit, c'est la parole du serpent contre celle de Dieu et la première doctrine à être niée est le jugement. Je crois que c'est frappant. Tout de suite, nier le jugement. Parce qu'une fois qu'on peut nier le fait qu'on va être jugé, ben là, on est libre de faire, n'est-ce pas? Et non, tu ne vas pas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort? Non. Et quelqu'un qui continue dans le péché, forcément dans sa tête, il nie le jugement. Et Ryle aussi dit presque la même chose. Il dit, depuis le jour où Adam et Ève sont tombés, le diable n'a jamais cessé de tenter les hommes de ne pas croire Dieu et a dit directement ou indirectement, vous ne mourrez pas même si vous ne croyez pas. Donc, vous pouvez ne pas croire Dieu et ne pas mourir. Et puis, Dieu derrière cela, il veut pas que vous soyez comme lui, en fait. Il veut vous empêcher à vous épanouir. Donc, vous devez vous faire confiance à moi et à vous-même et savoir que votre jugement, en fait, mieux que le jugement de Dieu. Et... quelqu'un a dit, je cite, dans l'ensemble des Écritures, l'essence du péché consiste à placer le jugement humain au-dessus du commandement divin. Je vais redire ça et réfléchissez avec moi ça. L'essence du péché consiste à placer le jugement humain au-dessus du commandement divin. Et je suis sûr que je faisais ça quand j'étais enfant, mais je n'y pensais pas. Mais devenu adulte, je vois ça dans les enfants. On leur dit de faire quelque chose, et la première chose qu'ils vont consulter, c'est leur jugement. N'est-ce pas ? Je suis sûr qu'on a toujours eu cette... Mais pourquoi ? C'est pour ça qu'ils demandent pourquoi. Parce que mon jugement doit aussi être d'accord avec le tien. Ben non, j'ai fait ça, mais c'est lui, etc. Tout de suite, il n'y a pas cette réponse naturelle de « oui, j'obéis » et après je consulte. Non, non, d'abord, ça doit être filtré par mon jugement à moi. Et ce qu'on peut facilement voir dans un enfant, on ne réalise pas que nous aussi on le fait avec Dieu. Et donc on va lire un commandement dans la Bible, on se dit « mais quand même, tu es sérieux ?» Non, ça... Non. Pour notre époque, non, ça. On a ces jugements qu'on porte, et on se dit, mais dans tous les cas, et pas d'exception, et on met notre jugement au-dessus de Dieu. Et même, vous avez peut-être eu la pensée, ou quelqu'un vous a dit, je sais que normalement, il faut faire comme ça. Est-ce que vous avez jamais eu quelqu'un qui a dit ça? Je sais que normalement, il faut faire comme ça, mais ma situation est exceptionnelle. Et c'est ça qui amène l'homme droit au péché. Donc, l'humilité consiste à mettre le commandement de Dieu au-dessus de mon jugement. J'obéis parce que Dieu l'a dit. Donc voilà, on va s'arrêter là, mais vous voyez que dans l'ensemble des Écritures, ce que Satan essaie de faire avec la Bible, quand on lit la Bible, même, on va ouvrir la Bible demain matin, il va essayer de tronquer une partie de ça. Il ne veut pas qu'on voit toutes les richesses. C'est pour ça que le psalmiste prie, ouvre mes yeux pour que je vois tout le trésor et les richesses qui sont dans ta parole. Il ne veut pas, il veut nous aveugler à ça, il veut exagérer après les exigences et les demandes et les commandements. Et il veut se servir de tout cela pour qu'on ferme la Bible et nous on a maintenant une image d'un Dieu déformé. Qui en fait ne sait pas et peut-être même ne veut pas mon bien. Ça c'est diabolique et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc ne soyons pas dupes des ruses de diables.